Les noces de Cana, c'est un texte merveilleux parce que, d'abord, c'est une fête, c'est une joie, c'est une noce, c'est un mariage. Ce sont que des choses que l'on aime. Et je trouve que c'est bien que Jésus commence son activité dans l'évangile de Jean, non pas par nous faire des sermons compliqués, mais simplement par partager une joie humaine, terrestre et simple avec ses disciples, à faire la fête, à bien manger et à bien boire. Je trouve qu'un évangile qui commence par un banquet, c'est plutôt un bon évangile et une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, évidemment, c'est que nous sommes invités à ce banquet. Vous le pensez bien, on ne lit pas l'évangile comme si on était des spectateurs d'une chose qui s'était passée il y a 2000 ans, mais l'évangile, c'est notre histoire à nous. Et donc, quand on lit les noces de Cana, on se dit, eh bien voilà, nous sommes invités à partager ce banquet, cette noce et cette joie. Et certainement, y a-t-il là une très grande joie. L'évangile, c'est Jésus qui nous invite à cette fête. Mais quand on lit le texte, on se rend compte que ça n'est pas si simple et qu'avant d'arriver à, je dirais, à la joie finale du bon vin, il a fallu pas mal de péripéties. Et donc j'essaye de regarder comment fonctionne le texte et moi je trouve trois phases, si l'on peut dire. La première, c'est que Jésus est présent, mais il ne sert à rien. C'est assez étrange. La joie et la fête sont là. La fête bat son plein, les gens s'amusent et rigolent, et Jésus, il n'est pour rien là-dedans, il assiste gentiment. Ça m'intéresse parce que qui ne se reconnaît pas là-dedans? Effectivement, dans notre vie, il y a des moments où simplement on fait la joie et à la fête, et on ne pense absolument pas à Jésus ni à Dieu. Alors les vieux prédicateurs d'autrefois culpabilisaient les gens en disant « Vous savez, c'est très mal de faire la fête sans rendre grâce à Dieu et vous ne devriez pas avoir de telles joies profanes et terrestres. » Je vois que l'évangile de Jean est moins rigoureux que cela. Et Jésus, dans cette première phase, n'est pas du tout un empêcheur de danser en rond. Jésus ne culpabilise pas ses disciples, il ne leur fait pas la morale. Jésus n'est pas un triste cire, et Jésus simplement est là, et il dit, écoutez, mes amis, vous êtes heureux, profitez-en. Voilà, terminé. Il y a une deuxième phase, un peu moins drôle, c'est vrai, c'est la phase du manque. Le vin vint à manquer. Et là, c'est quelque chose que tout le monde nécessairement a aussi expérimenté. C'est qu'on est parfois dans la joie et dans la fête, c'est vrai, mais on est parfois aussi dans le manque, c'est-à-dire parfois il n'y a plus de vin, plus de joie, plus de source de joie ni de fête. C'est-à-dire que ces joies terrestres, dont nous avons raison de profiter, ont évidemment leurs limites. Cela, tout le monde le sait. Parfois on a dit « Ah, c'est que les joies de la jeunesse n'ont qu'un temps. » Et par conséquent, les vieux savent évidemment qu'à la fin de sa vie, on n'a plus les joies du sport, on n'a pas forcément les joies des jeunes amoureux sur les bancs publics, on n'a pas toutes les joies de la bonne santé, de toutes ces choses. Et donc certains disent que, justement, les joies de la jeunesse finissent par cesser. Et ce serait l'explication pour laquelle, quand on a épuisé les joies de la jeunesse, il faut se tourner vers Jésus, c'est-à-dire vers la religion. Ce qui expliquerait qu'il y ait beaucoup plus de vieux dans les églises que de jeunes. L'explication me semble fausse, enfin pas entièrement fausse, mais en partie fausse. Parce que je suis, comme tout le monde, un ancien jeune, et je sais que les jeunes aussi peuvent expérimenter que la jeunesse et les joies de la jeunesse ne suffisent pas toujours, et qu'il peut y avoir aussi l'expérience, même jeune, des limites de ces joies terrestres. Et en effet, parfois on dit « Ah ben les jeunes, les enfants, ils ont de la chance, ils n'ont pas de soucis, eux ». Eh bien, ça n'est pas vrai. Les enfants ont parfois au moins autant de soucis que les grands PDG de sociétés en faillite. Et les enfants ont de réelles contrariétés. ont de réels soucis, de réelles angoisses. Et un enfant ne joue pas tout le temps, il pleure aussi. Et aller à l'école, eh bien, c'est une chose peut-être beaucoup plus difficile, contraignante, contrariante, que le métier que beaucoup d'entre vous faites. Parce que c'est sans arrêt une pression de la part non seulement des camarades, d'une société qui est extrêmement exigeante, très dure, injuste, et c'est aussi la pression d'un environnement scolaire qui n'arrête pas de semer une sorte d'angoisse permanente. Et moi, je me souviens, étant enfant, de l'angoisse d'aller à l'école en disant « il va y avoir une interro, je ne sais pas, maleçon », ou de l'angoisse de celui qui rend les notes et qui dit « voilà, Pernaud, c'est nul, 4 ». Eh bien, ça n'est pas drôle. Et donc, je crois que même les jeunes et même les enfants savent que la vie est difficile et que le vin ne coule pas toujours à flot. Et que même la jeunesse, eh bien, ça n'est pas une fête permanente. Ça n'est pas sans arrêt la vie au champagne. Ce n'est pas sans arrêt, la noce et le banquet. Et donc, effectivement, je crois que cette expérience, du vide, de l'absence de joie, de l'absence de bien-être, est quelque chose qui est partagé par toutes les générations. Et puis il y a quand même la troisième phase, parce qu'on n'en reste pas là, qui est celle du vin nouveau, le vin transmuté, le vin de Jésus. On nous dit qu'il est encore meilleur. Vous le savez, le vin dans la Bible, c'est le signe de la joie et de la fête, effectivement. Et donc là, on a une joie encore meilleure et encore plus durable. Et je crois que c'est vrai aussi, qu'il y a certainement dans le Christ, dans la relation à Dieu, une source possible d'une joie extraordinaire. Mais c'est vrai que pour trouver cette joie, il faut avoir expérimenté le manque. Et cette expérience, je viens de vous le dire, je crois qu'elle est vraie pour les gens les plus âgés, et elle est vraie aussi pour les jeunes. Et cette expérience du manque qui permet de pouvoir découvrir autre chose et d'aspirer à autre chose est quelque chose qui concerne aussi la jeunesse. Pour les petits-enfants dont j'ai parlé à l'instant, c'est évident, les jeunes enfants, qu'on a mis un peu de côté aujourd'hui parce que le culte serait trop long pour eux, eh bien pour les jeunes enfants croient facilement en Dieu, finalement ils prient. Et quant aux grands adolescents, eh bien aussi, et en effet, 20 ans, c'est l'âge, de la vocation. 20 ans, c'est l'âge où moi j'ai voulu devenir pasteur. Et 20 ans, c'est l'âge où certains comprennent, la radicalité, l'importance, l'essentiel de ce message, parce que c'est peut-être justement l'âge où on comprend que sa propre vie ne pourra pas donner toute la satisfaction possible uniquement avec des procédés d'ordre matériel ou purement humain. En tout cas, on ne peut effectivement découvrir la joie très profonde de la présence du Christ et de Dieu que si on a expérimenté cette limite des joies terrestres, quel que soit son âge. Et il est vrai qu'on ne peut pas, comme dit la sagesse populaire, on ne peut pas forcer à boire un âne qui n'a pas soif. Alors le Christ, on voit dans cette histoire du coup, quelle est sa place dans une vie ? Eh bien, il n'est pas quelque chose qu'on rajouterait en plus. Ce n'est pas une contrainte que l'on rajoute dans une existence, comme si moi j'ai une vie normale et il faut que je rajoute en plus le devoir de lire la Bible, d'aller à l'église, ou comme si je rajoutais dans ma vie une sorte de cerise sur le gâteau qui serait, le bonheur de croire un petit peu en Dieu, et comme si la vie spirituelle était une sorte de décoration qui me donnerait un petit peu de beurre dans les épinards, en quelque sorte. Mais on voit là, en tout cas, que le Christ, la religion, la foi, la prière, enfin tout ça, c'est une réponse au vide de notre existence. C'est une réponse au doute. C'est une réponse à la crainte. Une réponse au sentiment d'insatisfaction que l'on peut expérimenter et qu'il y a là quelque chose de très concret et réel qui nous rejoint. Mais alors, donc, admettons, j'expérimente la difficulté de vivre et comment Jésus va-t-il intervenir là-dedans ? Ben, il change l'eau en vin. Bon, d'accord. Et là, il y a deux manières de voir. La première, c'est de croire au miracle. Bon, là, je m'aventure sur un terrain douteux. Je ne l'ai jamais caché, je ne crois pas une minute qu'il soit possible de changer matériellement de l'eau en vin, qu'on s'appelle Jésus ou qui que vous vouliez, je n'y crois pas. Mais néanmoins, on peut croire au miracle. Le miracle, ce serait de dire, en lisant quand même symboliquement la chose, de dire, je peux croire que Jésus peut faire, ou Dieu peut faire le miracle, de transformer ma vie qui est plate, une eau plate, ma vie qui n'est pas marrante, quoi, au pain sec et de l'eau, et que je crois que Dieu peut faire le miracle de transformer ma vie de pain sec et d'eau en une vie de joie et de fête. Je crois que c'est lui qui peut le faire. Et qu'il suffit de le lui demander. Alors là, c'est une solution possible, c'est, je dirais, le rôle de la prière. Et qu'à ce moment-là, je crois que Dieu peut changer ma vie, il suffit de le laisser faire. C'est ça, il suffit de le laisser faire. Comme Marie, qui a confiance en Jésus, il dit « Faites tout ce qu'il vous dira. » Donc, reposez-vous sur Jésus, reposez-vous sur Dieu, et croyez que simplement, Dieu peut transformer votre vie. Il faut simplement lui faire confiance, lui confier sa vie, et dire « Voilà Seigneur, dans ma vie, il manque vraiment plein de choses, et bien Seigneur, fais ce que tu as à faire, et puis c'est tout. Et je m'abandonne à toi. » Et ça, c'est assez intéressant, ça n'est pas faux, hein. Cette façon, à un moment donné, de cesser de prétendre réussir sa vie par ses propres forces, de cesser de dire « il faut que je trouve un moyen pour être plus heureux, pour équilibrer ma vie ». Je m'abandonne au Seigneur, et le Seigneur transforme ma vie. Ça, c'est pour ceux qui croient au miracle. Et j'y crois un peu quand même, oui, je crois. Maintenant, on peut aller au-delà et se dire « mais le texte est quand même plus compliqué que ça ». Et il y a une méthode, c'est-à-dire qu'il demande quand même, si on regarde comment Jésus s'y prend, il demande une participation. Il ne dit pas simplement « ne vous occupez de rien, asseyez-vous et je vais remplir vos verres d'une façon magique ». Il dit « attendez, il y a une procédure, prenez ces jarres là, remplissez-les d'eau jusqu'à ras-bord, maintenant puisez ». Et donc il y a une procédure. Pour essayer de la comprendre, c'est une de mes vieilles manies aussi, je me suis demandé pourquoi le texte nous dit qu'il y a 6 jarres, pas 7, 4, 2, 8 ou 9 ou 12, pourquoi 6 jarres? J'ai une idée là-dessus, évidemment, sinon j'aurais fait mine de rien. L'idée c'est que 6, c'est le nombre des jours de la création matérielle. Vous savez, Dieu crée le monde en 7 jours, ou plutôt en 6 jours, et le 7e, il se repose. Ou plutôt, il sanctifie son travail. Donc il y a le monde matériel, qui est les 6 jours de la création, et le 7e, c'est le jour du Seigneur. On ne travaille pas, mais on sanctifie l'œuvre des 6 jours qui précèdent. Et donc on peut dire que ces 6 jarres représentent la dimension matérielle de l'existence des gens. Et donc on dit, vous voulez transformer votre vie? Bon d'accord, alors... Vous allez prendre d'abord votre vie matérielle, voilà, tout ce que fait votre vie matérielle, et là, vous les prenez comme elles sont, mais de se dire, ce qui vous manque, en fait, eh ben, c'est la 7e jarre, c'est-à-dire le 7e jour. Tant qu'on est dans la création purement matérielle, on est dans l'insatisfaction. Pour arriver à l'accomplissement, il faut la 7e jarre. Et ce qui manque, donc, ce n'est pas la quantité, ils avaient 6 jarres, c'est bon, il y a assez de quoi à faire quand même. Ce qui manque, c'est justement non pas de rajouter encore des choses dans la vie, mais c'est de sanctifier ce qui se trouve présent. C'est-à-dire, ce qui manque, c'est la qualité. Et ça, je le crois. Parce que peut-être faut-il, une fois ou l'autre, se préoccuper de la qualité de ce que l'on vit. Et que le but de l'existence, c'est pas d'en rajouter encore en plus, de se dire « ça y est, je suis déjà débordé toute la semaine, en plus, il faut que je rajoute le culte le dimanche ». Non, ce n'est pas d'en rajouter encore par des bonnes œuvres, par des piétés, des actes de piété ou de pratique. C'est de sanctifier l'existant. Ce n'est pas d'accumuler des heures de... Notre vie ne sera pas réussie si on accumule, je dirais, des heures de travail en plus, si on accumule encore plus de fêtes pour se détourner, ou si on accumule des diplômes, ou des temps de chômage, peu importe. Cherchons dans ce que l'on a, la qualité en ne faisant rien. Le 7e jour, Dieu se repose. Et donc, prenons le temps de chercher une dimension de spiritualité. Et le sens, il faudra le trouver justement dans cette présence du Christ, quand la mère de Jésus lui dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, et donc enfin prendre le temps d'écouter et de penser, de spiritualiser, de sanctifier. Et donc, je dirais la bonne nouvelle, si je peux dire, c'est que vous avez dans votre vie tous les éléments qui sont déjà présents pour pouvoir obtenir le bon vin de la fête. Jésus ne dit pas « Ah, mais malheureux, il vous manque les jarres. Allez chercher les jarres. » Elles y sont. Tout est là. Vous avez les jarres, vous avez l'eau. Même Jésus, il est dans le coin, pas loin. Vous avez tout. Il suffit juste de dire « Puisez. » Mais puisez au bon endroit. Tel est le secret de la vie, je crois. Savoir chercher dans sa vie les lieux de source, peut-être de vie ou de joie, qui sont déjà présents dans notre vie, en fait. Il suffit d'aller les chercher aux bons endroits. Et peut-être même, d'ailleurs, ces lieux de joie se trouvent dans les lieux de notre pratique ancienne, dans notre pratique religieuse. Et ça, c'est vrai, parce que parfois, je dirais, on peut penser que la pratique religieuse, pour nous, elle semble stérile. À quoi ça sert d'aller au caté? À quoi ça sert d'aller au culte? Tout ça, parfois, peut dire, ça semble dénué de saveur. Mais en fait, quand on peut revisiter ces moments et voir peut-être plus tard qu'il s'y trouve une source de vie et de joie incroyable. Et peut-être faut-il juste attendre d'en avoir besoin, de se rendre compte qu'il y a une quête à faire dans sa vie. Et d'ailleurs, tenez, puisque je vous parle de pratiques religieuses, on peut se dire quand même que ces jarres, certes, elles étaient présentes, mais ce n'était pas n'importe quelle jarre. Le texte nous dit bien, elles étaient faites pour les rites de purification des Juifs. C'est ce que dit le texte. Et donc, ce n'était pas n'importe quelle jarre. C'était des jarres qui étaient en fait la pratique religieuse. Et ça m'intéresse parce qu'on voit que ces gens-là, qui sont dans le manque, ils ont les jarres, et donc ils ont une pratique religieuse, mais une pratique religieuse qui ne leur apporte rien. C'est-à-dire que c'est de l'eau plate, quoi. Ils ont les jarres, elles sont dans un coin, mais elles ne apportent rien. Eh bien, je crois que, justement, on peut arriver à... que c'est quand même là-dedans qu'on peut arriver à puiser l'essentiel et la joie dont nous aurons besoin. Et que, par conséquent, toutes ces années de pratique que nous avons, ou de catéchisme, qui pour les enfants, parfois se disent « bon, j'y vais, mais enfin, ça me rase un peu », c'est de l'eau plate, quoi. Eh bien, là-dedans, peut-être qu'un jour, vous pourrez y trouver le vin extraordinaire de la plus grande joie de votre vie. Et pour l'instant, vous ne le savez pas. Mais gardez précieusement ces jarres, gardez-les, parce que moi, je vous dis, un jour, c'est là que vous pourrez puiser ce qui vous sauvera la vie. Et simplement, c'est, évidemment, on le voit peut-être pas toujours. Et d'ailleurs, Jésus, il ne va pas dire simplement « puiser », il ne part pas de jarres remplies, il va dire « vous avez les jarres, d'accord ». Premièrement, dit-il, remplissez ces jarres, remplissez-les. Il demande de les remplir, il demande notre participation. Et effectivement, je crois que ma première solution de dire « j'attends que Dieu agisse dans ma vie », j'y crois un peu, mais je ne sais pas en fait. Je crois qu'il demande notre participation. Et même si, plutôt que d'attendre les bras croisés, même si ça vous semble un peu plat, eh bien je dirais, remplissez déjà d'eau ces jarres. C'est-à-dire, ayez dans votre vie une démarche religieuse, une quête. Peut-être que dans un premier temps, ça vous semblera plat, mais néanmoins, je crois que c'est là une source de quelque chose. C'est la place des rites. Et en effet, on peut le dire comme ça. Quand ma vie semble vide, quand je suis dans le manque, je peux m'apercevoir que ma vie spirituelle aussi, elle est vide, comme ces jarres. Ces jarres, c'est ma vie spirituelle qui est vide, ma pratique qui est vide. Pas de pratique peut-être, pas de prière, pas de lecture de la Bible. Eh bien, peut-être faut-il déjà dire, avant de remplir votre vie de joie et de fête, eh bien, remplissez déjà votre vie rituelle. Remplissez d'eau ces jarres. Alors j'avoue, En soi, ça ne donne ni la joie ni la fête. Remplir d'eau les jarres et se laver rituellement avant je ne sais quoi dans le rite juif, c'est ni la joie ni la fête. Et c'est vrai, le rite, c'est ennuyeux. Mais pour tout le monde, hein. Je dirais moi-même, j'apprécie d'aller au culte, mais parfois je m'ennuie. Même quand je prêche. Alors, vous devez vous ennuyer encore plus. Et donc le culte est ennuyeux et la prière, c'est pas toujours la fête non plus. Et quand on lit la Bible, j'essaye de m'y efforcer, mais je peux le confesser, c'est pas un grand péché. Combien de fois, en faisant ma lecture de la Bible, je me dis, mais qu'est-ce que ça me rase ? C'est-à-dire, c'est pas la fête. Tout cela est hermétique, compliqué. Mais Jésus dit, attendez, remplissez ces jarres jusqu'en haut, à ras-bord. Si vous le faites pas, je vous dis, moi, si vous vous donnez aucun moyen, eh ben Dieu, et moi, je confirme, je crois pas trop au miracle. C'est pas en attendant les bras croisés que Dieu va vous envoyer la foi, le bonheur, la joie, la sainteté, tout ça. Bon, remplissez d'eau les jarres à ras-bord, et puis puisez. Et c'est à ce moment-là que Jésus peut faire ensuite qu'il y ait de la joie. Et ça peut être, je vous l'ai dit, simplement la pratique. On peut rentrer un peu plus en détail dans l'affaire. On peut se dire que c'était des jarres de purification. Donc c'est l'eau comme l'annonce du pardon des péchés qui lave, si vous voulez, qui lave la faute, comme le baptême de Jean-Baptiste où il disait « Reconnaissez vos fautes et moi je vous dis le pardon des péchés ». C'est pareil, on nous dit « Dieu vous pardonne ». D'accord, mais est-ce que ça donne sens à notre vie que de se dire être pardonné ? Eh bien, je crois que Jésus, lui, justement, il peut faire ce miracle de transformer une nouvelle, qui n'a pas grand intérêt, dans une vraie joie qui va réunir tout le monde. Peut-être parce que, justement, même si on me dit le pardon de mes péchés, peut-être que libéré, je vais pouvoir aller vers l'autre et me réjouir ensemble. Parce que je le crois aussi, là, cette joie, elle est collective et commune. Hein. Et effectivement, je crois, ça c'est un autre petit conseil, c'est que boire tout seul dans son coin, c'est pas bien. Voilà. On boit en fête, à plusieurs, en communauté, avec d'autres. Et que la vraie joie, c'est d'aller vers les autres. Et la vraie joie, c'est de vivre avec d'autres, de partager avec d'autres, d'être en communauté, de partager des choses, de partager peut-être la même bonne nouvelle ou je ne sais quoi, la joie et la peine des autres. En tout cas, c'est jamais tout seul dans son coin. C'est tout, voilà. Bon. Et c'est d'être peut-être aussi avec ceux qui sont au bénéfice de la même nouvelle. Et le baptême d'adulte, signe de la grâce, c'est pareil, je ne suis pas certain que le signe de la grâce en soi soit suffisant pour donner sens à la vie. Dieu vous pardonne, très bien, mais la grâce en soi, c'est insipide. Je suis gracié, mais pour faire quoi ? Et la grâce, c'est parfois angoissant. Et nous, les protestants qui militons justement pour la grâce et pour la liberté, pour l'autonomie, et on dit aux paroissiens, écoutez, vous êtes grands, vous êtes adultes, c'est à vous de gérer votre vie religieuse, comme vous l'entendez, de croire comme vous le voulez, vous êtes sous la grâce. Je me rends compte à quel point ça peut être angoissant pour certains. Comme la personne qui était en prison depuis des années, et on le libère, vous êtes libéré de prison, et il se trouve devant la porte de la prison de la santé comme un imbécile, avec une sorte d'angoisse terrible qui lui tombe dessus, parce qu'il a toujours désiré sortir de sa prison, mais maintenant, que fera-t-il ? Et on se rend compte à quel point, finalement, souvent, la vie est paradoxalement presque plus difficile pour ceux qui sortent de prison que pour ceux qui y sont. Et par conséquent, ce message de liberté, de grâce qui est donné, eh bien, c'est ce que l'on donne dans les églises. On donne le baptême, vous avez reçu la grâce, on dit le pardon, et tout ça au culte et tout le temps. Dieu vous aime, Dieu vous pardonne. Après, eh bien, c'est à vous de prendre justement dans ces jarres tout ce message de grâce et avec la présence directe du Christ, de le transformer dans un vin de fête. Et ça, c'est à chacun de le faire. Mais ce qui est vrai quand même, c'est qu'on ne peut pas court-circuiter les étapes. Je pense que le Christ ne peut rien faire dans notre vie si on n'a pas d'abord reçu le message de cette grâce, de l'annonce de ce pardon des péchés. Et tout cela, c'est pour la joie, ne pas se contenter d'avoir reçu la grâce, mais d'entrer en interaction avec le Christ. C'est là le but, je crois, d'avoir une vraie vie spirituelle, de lui parler, de lui signifier notre manque aussi, et de lui demander, autrement dit, et ça a été vu de tout temps, je dirais, ces noces de Cana expriment tout ce travail qu'il y a à faire dans la vie du chrétien qui lui permet de passer du baptême à la Sainte Cène, c'est-à-dire du baptême, de l'eau du baptême qui signifie la grâce, à la Sainte Cène, qui est la présence réelle de notre Seigneur qui nous donne toutes choses. Bon voilà, en attendant, la base de tout, hein, par-delà notre propre démarche, c'est que Jésus était invité au départ, même s'il ne faisait rien. Jésus était invité. Au départ, cette situation m'amuse, parce que Jésus est là, mais rien ne lui est demandé, mais il est là, comme un familier, comme un ami de la famille. Et c'est une situation fréquente chez les chrétiens, je dirais, de tradition chrétienne, dont beaucoup sont issus. Jésus est une sorte de familier. C'est l'ami de la famille, on l'aime bien, il est là, il ne nous dérange pas trop, tout va bien, mais il est là quand même, même s'il n'est pas très actif. Une fois de plus, et ça je veux le redire, parce que souvent les chrétiens dits sociologiques soit se culpabilisent, soit sont pointés du doigt par les chrétiens plus engagés, en disant « c'est les mauvais chrétiens ». Eh bien, Jésus ne culpabilise pas cet état de fait. Jésus peut être présent dans une vie sans nécessairement qu'il soit le cœur de l'existence. Je pense que c'est vrai aussi chez beaucoup de jeunes, justement, dont je parlais tout à l'heure. Souvent, dans les églises, on se dit, mais comment, où sont les jeunes, ceux qui ont 18 ans, 20 ans, où sont-ils, pourquoi ne vont-ils pas à l'église? Et je crois qu'il faut être patient. L'important, c'est d'avoir Jésus présent dans sa vie. Même s'il n'est pas toujours très actif, il faut qu'il soit là, qu'il soit présent dans une existence. Et le fait qu'il soit présent fait qu'un jour ou l'autre, il pourra être réactivé, je dirais. Vous voyez, ça lui permettra d'être actif au moment voulu. Et donc, c'est ce que je dis aux parents qui s'inquiètent que leurs enfants de 20 ans ne soient pas au culte. Je dis, ne vous en faites pas. Ils ont eu un bon catéchisme. Ils savent que Jésus est leur ami. Ils savent que l'Église est leur maison. Ils savent que dans l'Évangile, il y a un message de grâce. Et le Christ est présent dans leur vie. Et s'il est là, eh bien, peut-être qu'un jour, ils sauront justement, quand ils se diront, tiens, mais il manque un truc dans ma vie. Et on tient, mais là, je l'ai à portée de main, c'est Jésus, faites ce qu'il vous dira. Et c'est exactement comme, vous savez, comme ce qu'on appelle le blé d'hiver. Le blé, pour donner des bons épis, il n'est pas planté au printemps, il est planté l'hiver. On le plante l'hiver, il pousse rapidement, et après, pendant 3-4 mois, il ne bouge plus, il reste à l'état d'herbe. Eh bien, c'est ça, on sème, et c'est ce qu'on fait chez les plus petits, là, on sème le blé. Pour l'instant, vous en avez plus ou moins les effets. Après, ça reste comme ça. Et puis, dès que vient le printemps, plaf, ça pousse tout de suite. Et ça fait un épi. Et donc, l'important, c'est que le grain soit là, un peu germé, prêt à sortir au moment où il faudra. Si on le plante au dernier moment, c'est souvent un peu tard. Et il risque de ne pas parvenir à donner du fruit en son temps. Et donc, ce que je dis, moi, c'est sachez-le. Vous avez en vous un ami, et cet ami, c'est Jésus. Gardez-le précieusement, parce que même si aujourd'hui cet ami ne vous fait pas grand-chose, gardez-le précieusement dans votre vie, parce que peut-être que c'est lui qui un jour, non seulement vous donnera la joie qui vous manque, mais peut-être même que c'est lui qui un jour vous sauvera la vie, ou tout au moins, c'est lui qui un jour pourra remplir votre vie de la joie et de la fête qui vous manque. Mais moi, je l'ai trouvé, cet ami, et je dis, Jésus est ma joie, mon amour et ma fête. Amen.